Vivre FM
Podcast. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous.
Jean-Baptiste Bergès.
Mon invité n'a que 28 ans et il a choisi de rendre hommage à sa maman, Magali, une aide-soignante à domicile. À travers un livre émouvant, Florent retrace le quotidien de cette mère qui a choisi de consacrer sa vie aux autres. Confrontée au handicap, à la vieillesse, à la mort, le métier d'aide-soignante est difficile, tant physiquement que psychologiquement. Mais rythmé au quotidien par les relations humaines, il offre aussi beaucoup de bonheur, autant aux patients qu'à ceux qui l'exercent. Dans Vivre FM, c'est vous, je vous propose aujourd'hui de suivre les aventures et les mésaventures d'une aide-soignante à domicile, et ça commence maintenant. Florent Catanzaro, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bienvenue sur Vivre FM, merci beaucoup, je suis ravi de vous accueillir, nous sommes ensemble pendant une heure. Alors pour les présentations, ça va être simple, je vais citer un passage de votre livre. Je m'appelle Florent, j'ai 28 ans, je suis fils de Magali et j'ai la lourde responsabilité de vous retransmettre le récit de sa carrière. Rien de tout ce que vous allez lire ne sera fictif. Voilà, c'est un extrait de ce livre merveilleux que vous avez écrit. Il s'intitule « Aventures et mésaventures d'une aide-soignante à domicile ». C'est publié aux éditions Jourdan Pixel. Au premier abord, la première question, c'est pourquoi raconter le quotidien d'une aide-soignante, qu'y a-t-il donc d'intéressant dans ce métier? Et pourtant, on se rend compte qu'il y a plein de choses intéressantes à raconter. Pourquoi vous avez eu envie de raconter le quotidien de votre maman, justement?
Tout d'abord, donc, bonjour et puis merci à vous aussi de me recevoir. Je suis vraiment très ravi d'être ici. Pour répondre à votre question, pourquoi avoir commencé ce livre? En fait, j'ai commencé à écrire sans vraiment le savoir que j'écrivais ce livre. C'était à la base... une relation mère-fils, on va dire. J'ai commencé à écouter les histoires que ma mère avait à me raconter. Et puis, petit à petit, est venue l'idée de faire un livre. Petit à petit, je me suis vraiment senti, absorbé par ces histoires. J'ai moi-même beaucoup appris, alors que c'était un monde que je pensais connaître, vu que j'avais vécu avec ma mère pendant toute mon enfance. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup écrit, justement, parce que je voulais pas perdre tout ce témoignage, tout ce qu'elle me livrait à chaque fois. Et donc, en fait, le livre ne s'est pas imposé à moi. C'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est vraiment quelque chose qui est venu après, où je me suis dit, mais tiens, en fait, si je veux le partager aussi avec d'autres personnes, je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Pourquoi moi, ça m'intéresse alors que je suis pas du tout dans ce monde? Et donc,
alors, le défi était de taille parce qu'il faut quand même préciser aux auditeurs que vous n'êtes pas journaliste dans la vie, vous êtes ingénieur. Quel a été le déclic, justement? Est-ce qu'il y a un lien entre votre métier et le métier de votre maman qui a fait que vous ayez eu envie de s'intéresser à son métier, justement?
Alors, c'est ça. Moi, c'est vrai que, comme vous le dites, je suis donc ingénieur, pas du tout, pas vraiment de passé dans l'écriture. Hein. J'ai toujours aimé ça, mais j'ai pas vraiment sorti quelque chose avant ce livre. C'est mon premier livre. Et ce qui a fait, c'est vraiment, le lien, on va dire, que j'ai pu avoir avec ma mère qui me motivait à écrire ça. Quand je voyais qu'elle était à la fois heureuse de me parler de son métier et moi,
Ce que vous racontez dans le livre, c'est que quand même, dans son métier d'aide-soignante, les relations humaines sont très importantes. Dans le vôtre, ingénieur, c'est peut-être ce qui manque, justement.
Voilà, c'est ça le premier message et la première chose qui m'a subjugué dans son métier, c'est que voilà, elle tout de suite, c'était au cœur de son métier, c'est-à-dire que si elle allait pas en rentrant du boulot le soir, ça c'était pas parce qu'elle avait pas fini un rapport ou parce qu'elle avait pas fini, pas livrer un client à temps. Non, c'était plutôt parce qu'elle avait eu un patient qui pouvait être décédé dans ses mains ou parce qu'elle avait justement au contraire parce qu'elle avait réussi, donc elle allait bien si elle avait réussi à s'occuper comme elle le voulait de quelqu'un. Enfin, c'était influencé directement par ces relations humaines. Moi, mon métier était plus basé sur d'autres choses, sur, beaucoup plus carré, beaucoup plus technique.
Du coup, vous vous êtes intéressé à son travail, vous avez eu besoin de comprendre ce qu'elle faisait au quotidien, même si depuis votre plus jeune âge, il faut le préciser, elle s'est toujours un petit peu confiée à vous, elle vous a toujours raconté son quotidien, ce qu'elle faisait, ses patients, c'est ça?
C'est ça. Alors, je pense qu'elle a réussi à mettre quand même aussi une barrière pour évidemment pas laisser influencer son rôle de mère avec son métier. Donc, elle essayait forcément de faire la part des choses le soir. Mais parfois, vu que, comme je le dis dans mon livre aussi, comme je l'explique au début, j'ai été élevé, seul avec elle en semaine, vu qu'elle m'a élevé seul et le week-end, j'allais avec mon père, vu qu'ils sont séparés assez jeunes. Hein. Enfin, c'était pas une mère seule qui m'élevait, hein. J'ai quand même eu mes deux parents, mais... Donc en semaine, j'étais avec ma mère et elle avait besoin de se confier à moi, je pense. Donc j'ai un peu toujours baigné dans ce milieu. Mais je ne me rendais pas compte que c'était aussi prenant, aussi intéressant, aussi humain, tout simplement. Quoi. Pour moi, ça me semblait des histoires un petit peu normales ou banales. Et donc j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à découvrir le monde professionnel de mon côté, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était rien de tout ça. Donc un jour elle est arrivée, elle était un petit peu affectée par sa journée, elle a commencé à me raconter, elle m'a dit « là ça fait 30 ans que je fais ça en fait ». Moi je commençais à découvrir le monde professionnel depuis à peine 2 ans, j'ai commencé à lui dire « mais comment tu peux encore au bout de 30 ans être passionné par ce que tu fais, être à fond ?» Et c'est ce jour-là où vraiment le livre a été créé, parce que là je me suis rendu compte qu'elle avait énormément de choses à me raconter.
Parce que c'est ça, ce dont on se rend compte dans ce livre, c'est que la passion, au bout de 30 ans, votre maman, que vous appelez Magali, hein, c'est un nom fictif dans le livre, mais Magali, cette passion, au bout de 30 ans, elle a toujours, elle n'a jamais quitté.
Eh ben non, elle l'a jamais quitté, et même encore maintenant, je sais pas comment elle fait, hein, mais je suis vraiment ravi pour elle qu'elle ait trouvé le métier de sa vie et la passion qu'il lui fallait. Mais
alors Florent, à travers ce livre, vous abordez des thèmes qui sont tabous dans notre société aujourd'hui et pourtant qui sont essentiels, l'accompagnement en fin de vie, la vieillesse, la maladie, la mort. Est-ce que ce livre, c'est aussi une façon de revaloriser un petit peu le métier d'aide-soignante? D'après vous, quel regard les gens portent sur ce métier aujourd'hui?
Alors, je m'en suis rendu compte au début, quand j'en parlais, c'était pas forcément le regard le plus flatteur. Quand on me disait, bah, aide-soignante, qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? On est beaucoup basé sur un regard, hiérarchique. Aide-soignante, c'est ce qui arrive vraiment en dernier. Si on se base sur la hiérarchie pure dans notre société un peu capitaliste, on va se dire au-dessus, il y a infirmière, après, il y a médecin. Au bout du bout, il y a le chirurgien qui a, on va dire, le plus de pouvoir. Et pourtant, il faut plutôt voir ça comme un travail d'équipe pour moi. Chacun a ses capacités, a ses habilités, mais aide-soignante, ça fait aussi appel à beaucoup de capacités, donc peut-être plus humaines que techniques par rapport à un chirurgien, mais moi je me rends compte que c'est vraiment un métier prenant et qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus.
Il y a quand même beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues sur ce métier, et en fait on connaît pas tous les dessous essentiels, l'accompagnement, souvent l'aide-soignante c'est la seule personne que voient les patients, elles ont un rôle essentiel dans la solitude des personnes âgées, tout ça c'est ce que vous rappelez dans votre livre.
Ah bah c'est ça, elles ont un rôle de conseil, elles ont un rôle humain qui est très essentiel, mais pourtant c'est pas elles qui sont au devant de la scène quoi. C'est aide-soignant, donc le nom le dit, c'est d'ailleurs très bizarre parce qu'on ne dit pas aide-patient, le but dans aide-soignant c'est pas d'aider le patient à la base quand on décompose le nom, c'est d'aider le soignant, donc le soignant étant le médecin à la base.
Et les aides-soignantes, elles sont confrontées à de nombreuses histoires, parfois rigolotes, on rit pas mal dans votre livre, mais parfois plus dramatiques. On va y revenir tout au long de cette émission. Alors on sait que Magali, donc votre maman, est aide-soignante à domicile dans le sud de la France.
Tout à fait.
Les prénoms ont été changés, et notamment les prénoms des patients, puisqu'elle est toujours en activité à ce jour.
Exactement.
Revenons un petit peu sur son portrait, Magali. Comment est-elle devenue aide-soignante? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Est-ce que c'était une vocation, une passion? Le désir d'aller vers les autres, pourquoi est-elle devenue aide-soignante?
Alors, je pense qu'après coup, c'était effectivement une vocation. Elle s'en est peut-être pas rendue compte tout de suite, hein, c'est ce que j'explique aussi dans le livre. Elle s'en est pas vraiment rendue compte. Elle voulait assez vite travailler. Elle n'avait pas forcément de grande réussite au lycée. Donc, elle a arrêté après la seconde. Elle voulait travailler. Et on lui a proposé cette formation. C'est donc une formation au début en alternance, 1 an d'école d'aide-soignante. On lui a proposé ça et tout de suite, en fait, elle s'est rendue compte que c'était ce qu'elle voulait. Elle avait un petit peu cherché au début, mais très vite, elle voulait travailler. Quand elle a eu cette opportunité, elle s'est vraiment jetée là-dedans. Donc, conseillée par sa mère, qui est donc évidemment ma grand-mère et qui est la personne qui la connaissait le mieux, je pense, à l'époque. Donc, qui avait compris que ce métier était un peu fait pour elle. Ça a pris, alors qu'elle avait à la base, je me rappelle quand elle m'en parlait, elle disait qu'elle avait vraiment pas envie de reprendre l'école à cet âge-là, parce qu'elle venait d'arrêter la seconde, elle avait pas du tout envie de repartir. Et pourtant, elle a réussi à se motiver et à finir une des meilleures de sa promo pour justement exercer ce métier. Et directement, elle a su qu'elle voulait être à domicile aussi, parce que c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait ce côté indépendant aussi, et puis ce côté relationnel qui était encore plus marqué qu'à l'hôpital. Se rendre à l'hôpital, c'est souvent aussi dépendre un peu de ce que va vouloir tel médecin ou tel. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut souvent ranger les chambres, ranger des choses comme ça. Et elle, ce côté indépendant à domicile lui convenait complètement.
Puis il y a plus peut-être à l'hôpital les contraintes d'équipe et moins le temps de tisser un lien avec les patients peut-être.
Ben voilà, c'est ce qu'elle me dit encore une fois, parce qu'effectivement, moi j'ai. Bon, maintenant, je commence à avoir un peu d'expérience dans ce milieu, hein, vu que pendant 2 ans, c'est comme si je m'étais immiscé dans ce milieu, mais effectivement, c'est vraiment ce qu'elle m'a décrit au début, quoi. Elle a essayé à l'hôpital. Bon, c'est un peu le même métier, mais pourtant, c'est abordé d'une manière tellement différente qu'on en oublie peut-être parfois le basique, quoi.
Quelles sont les qualités pour être aide-soignante? Quelles sont les qualités de Magali, de votre maman, justement, qui l'ont aidée et qui l'aident à exercer ce métier?
Ah bah, ma mère, je l'ai toujours connue avec un tel... une telle écoute des autres et elle arrive à faire justement passer les autres avant elle. Une telle générosité, je dirais que c'est comme ça que je l'ai connue et je pense que c'est comme ça qu'elle peut réussir dans son métier. Quoi.
Une profonde humanité et la patience aussi, ça c'est important, c'est ce qu'on ressent dans votre livre. Forcément, ouais. Il faut beaucoup de patience parfois.
Il faut réussir vraiment à encaisser et ça je ne sais pas comment elle fait, mais elle arrive à être très forte là-dessus.
Alors le quotidien d'une aide-soignante, c'est quoi Florent, justement le quotidien de votre maman? Elle est souvent sur les routes, forcément elle va visiter les patients.
Alors, elle est souvent sur les routes, donc comme je le décris dans une journée type, parce que c'est vrai que ce métier n'est pas forcément bien connu de tout le monde, donc elle commence le matin à 7h, donc elle a son planning qu'elle prend en général la veille. Donc dès 7h ou 7h30, ça dépend du premier patient, mais elle doit être chez le premier patient, pour commencer à effectuer tout ce que j'appelle, ce qu'on appelle dans ce milieu-là, donc justement le nursing, à savoir s'occuper de ces petits soins que les personnes âgées ne peuvent plus effectuer toutes seules. Donc ça commence chez le premier patient à 7h30 en général, jusqu'à 11h30, donc elle voit entre 6 et 8 patients dans la matinée. Elle rentre chez elle ensuite le midi, grosse pause de midi à 16h, pour reprendre la journée, donc pareil le soir, effectuer ces mêmes petits gestes pour cette fois remettre les patients au lit. Donc le matin, on les sort du lit, on les place plutôt dans ce qui est leur salle à vivre donc chez eux, dans le salon. Et le soir, on les remet au lit, on les prépare pour la nuit à venir.
Donc elle est confrontée à des patients valides et d'autres invalides. Et ce qu'elle raconte, Magali, dans ce livre, c'est que les invalides, il est important de les lever tous les matins. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Elle parle notamment de Josette, page 48, qui a la maladie de Parkinson, pour leur donner un semblant de vie. C'est ça qui est important.
C'est ça, effectivement. On pourrait se demander que le patient... Donc il y a des patients qui ont vraiment des gros problèmes moteurs, qui n'arrivent plus vraiment à se déplacer tout seuls, forcément, qui sont même quasiment handicapés ou... On peut se dire, mais pourquoi les lever? Pourquoi leur donner, les forcer à sortir du lit? Mais c'est quelque chose qui est tout simplement indispensable pour eux, donc pour leur donner, ce que vous disiez, ce semblant de vie. Donc ces horaires fixes, ce rythme un petit peu, le matin on se lève, on sort de son lit, on reste pas toute la journée, jour et nuit au lit, c'est pas une vie, quoi. Donc elle les force un petit peu à sortir du lit. Et puis ne serait-ce que quand ils reçoivent aussi des visites de leur famille, il vaut mieux qu'ils soient dans le salon, qu'ils soient... tranquillement dans leur canapé plutôt qu'au lit ou... enfin, c'est leur forcer à avoir cette routine, cette chose qui les raccroche un petit peu aussi à ce monde encore.
Ce qui explique que l'avenue de l'aide-soignante est quand même quelque chose d'important dans le quotidien de ces gens-là.
Ah bah moi j'en suis convaincu, oui, tout à fait.
Florent, restez avec nous dans un instant, la suite de cette émission consacrée à votre livre. Il s'intitule « Aventures et mésaventures d'une aide-soignante à domicile ». C'est publié aux éditions Jourdan Pixel. On reviendra sur les différentes histoires et péripéties que votre maman Magali a vécues. A tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
Non, une aide-soignante ne se contente pas de laver des fesses, des petites, des grosses, des flasques. Le métier d'aide-soignante va beaucoup plus loin. Rythmé au quotidien par les relations humaines, ce métier offre aussi beaucoup de bonheur, autant aux patients qu'à ceux qui l'exercent. C'est en tout cas le message que vous avez envie de faire passer à travers votre magnifique ouvrage Florent Cantazaro. Il s'intitule « Aventures et mésaventures d'une aide-soignante à domicile », publié aux éditions Pixel Jourdan, où vous racontez le quotidien de votre maman Magali, qui est aide-soignante à domicile dans le sud de la France depuis 30 ans. On y découvre des histoires cocasses, puis d'autres plus douloureuses. L'une des principales difficultés des aides-soignantes, il faudra le rappeler quand même, c'est que quand on est aide-soignante, on ne guérit personne, simplement on améliore le confort au quotidien et on accompagne les gens jusqu'à la fin de vie. Des situations, j'imagine, assez dramatiques, surtout quand on est une jeune femme. Votre maman a commencé à l'âge de 20 ans. Comment Magali a-t-elle fait face justement à ce genre de situation, à la mort principalement?
Alors, la mort, j'en parle peut-être pas tout de suite dans mon bouquin. C'est vrai que j'ai commencé au début par des sujets un petit peu plus drôles, on va dire, parce que je voulais pas commencer par les thèmes plus durs. Mais effectivement, la mort, c'est bien évidemment quelque chose auquel elle a été confrontée très rapidement, parce qu'on peut pas, passer outre dans ce métier. Et au début, sans formation et sans vraiment d'habitude, mais non, on peut jamais s'habituer à la mort, mais sans formation et sans préparation au préalable, la mort, elle essayait de la gérer en parlant autour d'elle, donc en s'aidant de sa mère, qui était un petit peu sa confidente à l'époque, je me rappelle, elle me disait qu'elle allait, le soir, il n'y a pas de honte, mais tout simplement pleurer chez sa mère, quoi, pour en parler de ses patients qui étaient, et qui ont sa tâche forcément dans ce métier, et qu'elle venait de perdre, et donc elle venait se confier auprès de sa mère. Quoi.
Parce que ce genre de choses, les aides-soignants ne sont pas formés pour justement, et puis n'ont pas de suivi psychologique aussi, parce que ce sont des choses qui peuvent être traumatisantes.
Alors effectivement, non, en un an de formation aide-soignante, c'est assez rapide, et de ce qu'elle m'a dit, elle a eu plus tard, elle a eu quelques stages, donc sur la mort ou sur les maladies particulières, telle Alzheimer ou telle Parkinson, pour savoir comment gérer tout ça. Mais au début, elle s'est très très vite retrouvée dans le bain toute seule et donc sans préparation.
Donc la mort, c'est une des épreuves. Et puis après, c'est le quotidien aussi. Forcément, quand on arrive chez les gens, on ne sait pas sur quoi on va tomber lorsqu'on est aide-soignante. L'un des premiers chapitres de votre livre, c'est le manque d'hygiène chez les gens. Ça, c'est une grosse problématique qui a surpris Magali au départ.
Bah, ça, c'est on va dire assez rigolo, je trouve, parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué. En fait, j'ai voulu commencer par ce chapitre. Donc par ce manque d'hygiène, parce que c'est ce qu'elle m'a tout de suite parlé quand je lui ai dit à ma mère, je lui ai dit « mais écoute, parle-moi de ton métier et dis-moi ce qui t'a choqué au début ». Elle m'a dit « mais enfin, moi parfois je vais chez des gens, c'est vraiment… » à l'heure des charges aussi, les gens ne peuvent plus forcément s'occuper de leur maison, ne peuvent plus nettoyer, mais… Elle voit des choses, des saletés, je ne sais pas comment dire, des couches de crasse.
Il y a des gens qui lui demandent de les laver qu'un jour sur deux, par exemple.
Ah oui, encore qu'un jour sur deux, c'est déjà bien quand ils sont à ce niveau-là. Non, il y a des gens qui n'aiment tout simplement pas du tout être lavés, qui veulent se laver une fois par semaine au maximum, ou qui, donc l'hygiène sur eux, mais aussi chez eux, au sein de leur maison. Elle en voit des choses, soit les habits qui traînent un peu partout, ou des couches de saleté partout. À force, ça peut vite devenir... on s'occupe plus d'une maison, ça peut vite devenir un débarras.
Et... vous racontez par exemple, page 29, l'histoire de Christine qui vivait dans une maison sans salle de bain. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette personne-là?
Oui, tout à fait. Alors bon, les maisons sans salle de bain, maintenant effectivement, on a du mal à imaginer. Moi aussi, j'avais du mal à imaginer quand elle a commencé à en parler. Mais il faut savoir que les histoires qu'elle raconte, donc certaines peuvent nous ramener jusqu'à 30 ans en arrière. Parce que donc elle a plus de 30 ans en carrière maintenant. Donc quand elle commençait, 30 ans en arrière... elle s'occupait de personnes qui avaient parfois 70 ou 80 ans, et ça pouvait faire des bons... parce que ces personnes-là étaient restées à l'hygiène ou à leur maison qu'ils avaient donc, pendant leur jeunesse, on va dire. Donc elle n'avait jamais fait de travaux, elle n'avait jamais eu besoin d'avoir de salle de bain. Et du coup, pour faire la toilette à une personne comme ça, c'était assez folklorique, on va dire. Elle devait tout simplement faire bouillir une casserole pour avoir un petit peu d'eau chaude, lui donner, donc mettre un petit peu de savon, lui donner le bain, la laver, donc en trempant le gant dans l'eau chaude et en la lavant comme ça, quoi. C'était des conditions qu'on n'imagine pas trop maintenant, quoi. C'est assez simple.
Comment vous avez réagi, vous, lorsque vous avez entendu ces histoires que vous a racontées votre mère?
Mais moi, ça me paraissait dans des films, quoi. Quand on voit les rois se baigner dans une espèce de grosse, je sais pas, un gros seau en bois, ça sortait quelque chose, ça sortait des films pour moi, c'était pas réel. En fait, elle me disait, mais si, mais crois-moi. Et bon, forcément, c'est ma mère, je la croyais, quoi. Elle me disait, mais crois-moi, je faisais ça, et encore maintenant, il peut m'arriver. Alors, assez rarement, quand même. Mais il peut arriver d'aller dans les endroits où y a plus de salle de bain, plus rien, quoi. C'est pas grave.
On peut dire que l'aide-soignante voit tout, elle est au plus près de l'intimité de ses patients, et parfois elle se retrouve dans des situations assez saugrenues. Vous le racontez dans ce livre, Aventures et mésaventures d'une aide-soignante à domicile, comme l'histoire de cette mamie, Brigitte. Elle avait 90 ans, c'était une mamie qui vivait cloisonnée dans sa chambre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette mamie?
Alors, c'était une mamie donc, très sympathique, Brigitte, qui vivait, comme vous le disiez, malheureusement, plusieurs années dans sa chambre. C'était choix familial. Son fils ne voulait pas qu'elle sorte. Elle habitait dans le domicile du fils. Il ne voulait pas vraiment qu'elle sorte. Sa seule distraction de la journée, c'était ma mère qui passait donc pour s'occuper d'elle. Et donc, c'était une petite amie rigolote qui racontait en fait à ma mère ses premières expériences télévisuelles. Et dont elle est tombée un soir au cours d'une de ces nuits seule et difficile, quoi. Elle n'arrivait pas à dormir, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle est tombée sur un des premiers films pornographiques. Et donc, forcément, l'aide-soignante qu'elle voit le lendemain, c'était ma mère, et c'était celle à qui elle a eu envie de se confier, de lui dire, mais pourquoi j'ai vu ça à la télé? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens font ça? Donc ça, c'était des passages assez rigolos, des moments assez intimes, je pense, entre ma mère, donc forcément, et cette petite mamie qui avait plein de questions assez franches sur la sexualité de nos jours, quoi.
Donc cette mamie a découvert la sexualité grâce au film d'une jeune cryptée, c'est ça, à l'âge de 90 ans. Voilà, ce sont le genre d'anecdotes qu'on peut retrouver dans votre livre, qui s'intitule « Aventures et mésaventures d'une aide-soignante à domicile ». La difficulté aussi pour les aides-soignantes, c'est de trouver le juste milieu dans la relation avec son patient, entre des patients qui vous font tourner en bourrique, vous racontez beaucoup d'anecdotes dans votre livre, et une gentille mamie qui est toute seule. Est-ce que votre mère s'est confiée sur ça? Ça a été difficile pour elle, durant sa carrière, de trouver le juste milieu, justement?
Ben, c'est ça, c'est qu'en 5 minutes, elle peut passer d'un patient qui est très gentil, très calme, très tendre, on va dire, donc une toilette agréable à réaliser avec elle, à hop, on prend sa voiture, on va chez un autre, et là, c'est presque l'enfer qu'on arrive chez des patients complètement agités ou complètement... Enfin, c'est une certaine adaptabilité, elle a dû faire preuve de ça. C'est...
Sans parler forcément des papis qui font parfois des avances, ça c'est une réalité, des avances aux aides-soignantes,
ah, oui,
et qui utilisent même leur handicap pour faire du chantage affectif, ça existe,
oui,
ça.
Ça c'est des choses auxquelles elle a été confrontée aussi. C'est vrai qu'à l'hôpital, il y a le cadre, on va dire, à l'hôpital il y a le cadre, il y a le cadre médical, donc les gens vont moins se lâcher. À domicile, le fait de rentrer, bon, elle est seule, c'est une femme, elle rentre seule chez un patient, quoi. Et du coup, ça peut leur donner des idées. Ça peut, par exemple, elle est arrivée chez un patient qui l'attendait gentiment avec la télé allumée. Bon, encore un film porno, vous allez dire, mais effectivement, il y avait un film qui tournait en fond, elle attendait comme ça, tranquillement, en peignoir. Bien évidemment, c'était pas pour ça qu'elle venait, donc elle s'est empressée de repartir, mais bon...
On se rend compte en tout cas que psychologiquement, c'est un métier extrêmement dur. Autant dans les situations auxquelles elle doit faire face que dans justement la mort dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment psychologiquement quelque chose de difficile.
Ah bah, je pense qu'il faut être accroché. Hein. Moi, je ne sais pas comment elle peut justement à la fois mêler cette joie de vivre qu'elle a dans le quotidien, et c'est ce qui fait sa force aussi, c'est comme ça que je la connaissais, avec toutes ses aventures à côté, enfin, je trouve qu'il faut vraiment une force en tout cas mentale, physique aussi, j'en parle parce que c'est assez dur de... s'occuper physiquement des patients, mais mental, la première chose, c'est vraiment cette force mentale qu'elle a pu avoir et qu'elle a encore maintenant, quoi.
Votre maman, elle exerce le métier depuis 30 ans, le métier d'aide-soignante. Oui. Est-ce qu'elle a observé une évolution dans la prise en charge des soins à domicile, justement ?
Alors oui, fort heureusement, il y a eu des évolutions techniques aussi. Ça, je le développe un petit peu aussi dans le livre, les évolutions techniques, parce qu'au début, il n'y avait pas tout ce qui est lit médicalisé ou verticalisateur pour aider justement à lever le patient. Il n'y avait rien de tout cela, donc c'était vraiment... purement physique, donc toute seule elle pouvait pas toujours tout gérer, donc elle pouvait s'aider à deux, ouais. Plusieurs aides-soignantes en tout cas.
Notamment pour réaliser une toilette et habiller un patient lorsqu'il était alité, c'était extrêmement compliqué à l'époque.
C'est ça, il y a certains patients qui sont vraiment plus du tout mobiles, hein, qui n'ont plus aucune force, plus aucun muscle, donc là c'est à elle de les tourner, de vous imaginez habiller quelqu'un qui ne peut plus bouger vraiment au lit, ou même devoir laver quelqu'un qui ne peut plus bouger au lit et qu'il faut laver pourtant, qu'il ne faut pas laisser comme ça. C'est assez déplacer un corps inerte, ça me paraît quelque chose de... physiquement assez dur, quoi. Et pourtant, c'était son quotidien, quoi.
Parmi les évolutions, on peut aussi parler de la toilette mortuaire, qui était le quotidien des aides-soignantes à l'époque et qui est moins leur quotidien aujourd'hui.
Ah oui, ça, heureusement aussi, elle m'en a parlé, c'est quelque chose d'assez difficile, quoi. Parce qu'évidemment, donc, bon, on va pas rentrer dans des détails un petit peu durs, mais évidemment, lorsqu'un quelqu'un décède, enfin, il y a une toilette effectuée après, il y a un travail à faire sur le mort. Ça c'est pas du tout le, en tout cas plus maintenant heureusement, c'est pas du tout le rôle de l'aide-soignante de faire ça. Maintenant c'est bien séparé. Avant, bah, l'aide-soignante elle allait à domicile, si elle trouvait un patient qui était décédé, elle devait s'occuper, faire toute la partie, donc la partie toilette mortuaire, qui heureusement maintenant est bien séparée entre les pompes funèbres et le corps médical aide-soignant pour les vivants, on va dire, heureusement, quoi. Parce que c'est vraiment deux métiers différents, quoi.
Vous avez l'impression que votre maman elle avait vraiment besoin d'extérioriser. Elle a besoin d'extérioriser son quotidien, justement. On a l'impression vraiment que ce métier d'aide-soignante est extrêmement lourd psychologiquement.
Alors,
c'est peut-être pour
oui.
ça qu'elle se confiait à vous aussi à l'époque.
Ah, c'est vrai, pour extérioriser, parce que bah, c'est un peu le bon côté d'aide-soignante, c'est qu'elle est un petit peu toute seule, indépendante aussi, mais c'est un peu le côté, on va dire, plus dur aussi. Elle n'a pas forcément toujours un lien très étroit avec les autres filles du travail qu'elle revoit au bureau et qu'il n'y a pas de problème. Mais quand elle est seule, elle se retrouve assez vite seule. C'est pas comme à l'hôpital où il y a des pauses, on va dire, où on peut... en parler plus facilement entre collègues de travail. Là, elle pouvait finir une tournée et puis arriver directement à la maison et sans avoir une coupure vraiment, quoi. C'est passé directement de l'étape travail à l'étape maison, et donc elle a eu besoin d'en parler. Je pense qu'aussi, c'est des métiers assez durs où la reconnaissance n'est pas toujours, que ce soit de la part des patients ou de la part de la hiérarchie, la reconnaissance n'est pas toujours évidente. En parler, pour elle, ça a été, je pense, une expérience très enrichissante. Pour moi, ça a été aussi génial de connaître beaucoup plus de choses sur ma mère et sur ce métier aussi, quoi, tout simplement. Et non, ça nous a beaucoup rapprochés, même si on était très proches à la base, ça nous a encore plus rapprochés, on va dire.
C'est une façon de lire ce livre aussi, que vous êtes fier du métier de votre maman.
Ah bah, complètement. Complètement. Je dis, pour pouvoir l'écouter autant dans son métier, pour pouvoir... avoir autant d'intérêt dans ce métier. J'étais fier de l'écouter, j'étais fier de découvrir ça, son monde en fait. Hein.
Florent, restez avec nous, Florent Catanzaro. Dans un instant, la suite de cette émission consacrée à votre livre. On continue de dérouler l'histoire de votre maman Magali. Ce livre s'intitule « Aventures et mésaventures d'une aide-soignante à domicile ». C'est publié aux éditions Jour dans Pixel. A tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
Dans Vivre FM, c'est vous. Aujourd'hui, on continue de découvrir les aventures et mésaventures d'une aide-soignante à domicile. C'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage publié chez Pixel Édition que venait nous présenter Florent Catanzaro. Vous avez voulu mettre à l'honneur le métier de votre maman, Magali, aide-soignante à domicile dans le sud de la France depuis plus de 30 ans. On se rend compte que son quotidien est rythmé par les relations humaines. Ce métier offre aussi beaucoup de bonheur autant aux patients qu'à ceux qui l'exercent. Vous l'avez interviewé puis retranscrit comme un roman ses péripéties. Qu'est-ce que cette expérience vous a-t-elle apporté? Personnellement, Florent, ce travail d'écriture, de livre.
Alors, personnellement, déjà, beaucoup de... Comment dire? Personnellement et humainement, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai découvert un métier, faut pas avoir peur de le dire. C'est vrai que j'ai découvert le métier de ma mère. Je me suis vraiment... j'ai toujours eu ce côté, on va dire, curieux aussi de découvrir beaucoup de choses. Donc, ça m'a permis de faire beaucoup de recherches avec ma mère, beaucoup de recherches de mon côté. Je pensais pas qu'écrire allait être quelque chose qui allait autant me plaire. En tout cas, écrire un livre sur la durée, c'est vraiment une expérience fatigante, on peut dire, hein, parce qu'il faut réussir à s'y mettre, à s'y plonger dedans régulièrement. Il faut jamais lâcher. Là, évidemment, j'avais aussi le soutien de ma mère, donc ça a aidé à ne pas lâcher. C'était un peu un travail d'équipe.
Et est-ce que votre regard a changé sur la vieillesse, la maladie, le handicap, la fin de vie? Est-ce que vous avez découvert des choses?
Alors oui, effectivement, j'ai découvert des choses. J'ai appris beaucoup de choses positives sur la vieillesse. J'avais pas du tout de regard négatif avant, mais j'avais aussi, des choses qui m'étaient assez inconnues. Et là, positivement, j'ai pu découvrir qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour pouvoir mieux vieillir, pour pouvoir mieux aborder cette étape qui doit être sûrement très difficile. Mais donc, il existe beaucoup de personnes dans les soins à domicile, hein, que ce soit aide-soignante, mais aussi beaucoup d'autres métiers. Ça, c'est principalement aussi ce que je veux dire dans ce métier, c'est que vieillir, ça peut être difficile, mais heureusement, maintenant, c'est plus... maintenant, je sais pas comment c'était avant, mais en tout cas, maintenant, il existe des possibilités d'être accompagné là-dedans.
On se rend compte dans votre livre, en tout cas, que l'aide-soignante aussi est confrontée aux maladies de la vieillesse, forcément, avec l'allongement de la durée de vie des Français. Oui. Il y a la maladie d'Alzheimer, Parkinson, qui explose. Hein. Et pourtant, elles ne sont pas formées à ce genre de malades, les aides-soignantes.
Non, pas vraiment, c'est vrai. Elles ne sont pas vraiment formées à ça. C'est peut-être arrivé aussi un peu brutalement, un peu rapidement. Alors maintenant, je sais qu'elles disent qu'elles essayent. Elles ont de plus en plus de formations qui commencent à exister, qui commencent à se faire justement pour elles, parce que c'est totalement différent. S'occuper d'un patient Alzheimer qui peut... d'une minute à l'autre faire une crise un peu de folie, donc c'est totalement différent s'occuper d'une personne comme ça ou d'une personne qui est simplement, on va dire, un peu diminuée dans ses gestes quotidiens.
Justement, on apprend dans le livre que votre maman a dû trouver des solutions seule face à des patients qui pouvaient justement avoir des crises de folie, de violence extrême. Par exemple, elle parle du cas de Philippe à page 165. Qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre, elle, justement, pour aller... pour aider ces personnes, pour pouvoir faire son travail dans les bonnes conditions?
Au début, je pense qu'elle s'est assez vite rendue compte que ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de forcer des personnes en général, mais encore plus des patients Alzheimer, c'est ce qui peut vraiment leur déclencher des crises de folie. Alors évidemment, c'est dur de tout accepter, hein, surtout quand les patients se mettent à être violents, mais ça ne sert à rien de les forcer, ça ne sert à rien de... Donc vous parlez de ce cas du patient Philippe qui était justement lui perdu dans son jardin. Il faut pas le brusquer, il faut aller doucement avec lui pour lui faire comprendre, parce que bon, ils ont certes cette maladie, mais ils ont aussi des moments de lucidité, donc ils peuvent comprendre par moments, ils peuvent, je sais pas comment elle fait aussi quand même, hein, comment elles font aussi toutes ces personnes soignantes qui ont à gérer des maladies comme ça, mais c'est vraiment doucement, petit à petit, quoi, qu'il faut gérer ça.
Son regard à elle, il a changé aussi en 30 ans sur la vieillesse.
Ah oui, je pense. Hein, je pense qu'elle a dû beaucoup. Je pense qu'elle déjà elle-même a changé. Hein, sans vous parler de la patience tout à l'heure, c'est vrai que forcément, elle a dû acquérir de la patience dans ce métier au cours des années. Hein.
forcément, le quotidien d'une aide-soignante, c'est de s'occuper plus souvent des personnes âgées, mais on se rend compte dans votre livre que votre maman a dû aussi s'occuper de personnes plus jeunes. Je pense notamment à cette histoire que vous racontez, Stéphanie, 35 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, quel était son cas ?
Alors oui, bah, les patients jeunes, ça a été vraiment aussi quelque chose de très difficile, parce que donc, le but d'une aide-soignante, c'est vraiment d'aider les patients qui ne peuvent plus réussir tout seuls leurs petits gestes de la vie quotidienne. Et malheureusement, ça touche parfois des personnes jeunes, des personnes plus jeunes. Donc vous parlez de cette patiente, elle a eu le plus jeune qu'elle a pu avoir, un patient qui avait même pas 20 ans et qui était pourtant atteint d'un cancer en stade terminal. Donc très très dur de s'occuper de patients jeunes, de patients plus jeunes que soi, même si à l'époque elle devait même pas avoir 25 ans, mais de voir un patient qui est encore plus jeune que soi et qui est alité en stade terminal, c'est sûrement le plus dur, quoi, je pense.
Et cette Stéphanie, quel était son handicap ?
Alors Stéphanie est une patiente vraiment très particulière qu'elle a gardée assez longtemps dans le service, donc qui était donc tout simplement complètement immobile, totalement paralysée, qui ne pouvait plus communiquer qu'en clignant des yeux. Donc c'était le moyen qui a été mis en œuvre, que ce soit avec l'aide ménagère ou que ce soit avec les aides-soignantes, ou même avec sa famille elle-même. Elle clignait des yeux, donc à chaque lettre, on lui récitait l'alphabet, à chaque lettre, elle clignait de l'œil au bon moment, et lettre par lettre, elle réussissait à composer des mots, puis ensuite des phrases. Ça prenait du temps, mais elle avait le temps, malheureusement, je veux dire. Enfin, elle était alitée, donc c'était comme ça qu'elle réussissait à communiquer avec l'extérieur.
Et votre maman, dans ce cas-là, justement ?
Et maman, donc c'était d'être confrontée très vite à cette personne qui avait le même âge qu'elle, quasiment, qui avait aussi des enfants. Donc elle arrive dans cette maison où cette patiente était en plein milieu du salon pour essayer d'assister à la vie de famille. Elle pouvait y participer tant bien que mal, c'était assez difficile pour elle, malheureusement. Mais elle se retrouvait dans ce milieu-là, ma mère, sans pouvoir trop communiquer avec cette patiente, à devoir lui prodiguer les soins du mieux qu'elle pouvait, mais sans communication. Je me rappelle qu'elle, quand elle me racontait ce passage, ces moments, ces passages chez elle, c'était vraiment quelque chose où je la sentais troublée, parce qu'en tant que femme, de voir une autre femme comme elle, pas réussir à participer à la vie de famille, pas réussir à participer à l'éducation de ses enfants, c'était des moments durs, quoi.
Florent Catanzaro, ça c'est une histoire que vous racontez donc dans ce livre qui s'intitule « Aventures et mésaventures d'une aide-soignante à domicile ». Est-ce qu'il y a une autre histoire qui vous a marqué, que vous voudriez raconter aux auditeurs de Vivre FM ?
Alors moi je dirais, c'est vrai qu'on parle beaucoup, donc en tout cas évidemment dans ce métier je parle d'anecdotes plutôt, positives ou de moments qui mettent en valeur ma mère, forcément, c'est obligé, mais il y a des moments, comme dans tout métier, où on peut faire des erreurs. Et une anecdote, vraiment l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est lorsque je parle d'un patient, Roland, donc qui était un patient en stade terminal aussi, donc dans un état très difficile, très compliqué, où ça a été assez difficile, donc ma mère, enfin, quand je parle d'erreur, c'est que ça a été très difficile pour ma mère d'établir un dialogue au début, c'est pas toujours facile ce métier, donc même avec l'expérience, même avec la façon de gérer des cas, même en ayant vu plusieurs patients qui étaient dans des phases terminales, elle est arrivée assez simplement chez ce patient au début en se disant « Bonjour, comment allez-vous » enfin, des petits mots qu'on a tout le temps et qui pourtant ont énervé le patient au début parce que rien n'allait pour lui. Et c'est là où j'ai pu voir, quand elle m'a raconté ma mère aussi, là elle s'est dit « Mais je ne veux pas laisser passer ça maintenant. Enfin, ça s'est mal passé la matinée, je suis allé chez ce patient, ça s'est mal passé. Je n'ai pas réussi à lui parler, je n'ai pas réussi à l'atteindre parce que lui était très mal, était dans son coin, dans sa petite bulle. » Et quand elle me racontait, elle y a pensé toute la journée à se dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Et le soir, elle a essayé de prendre son temps avec ce patient, d'établir un dialogue avec lui, de l'écouter. Pas forcément lui dire grand-chose au début, mais juste lui dire si vous voulez, je peux rester 5 minutes pour vous écouter. Je vois que vous avez mal à l'épaule, vous avez mal au dos. Forcément, il était alité toute la journée. Donc, elle a commencé à le masser tout doucement, à essayer de lui montrer qu'il pouvait se détendre un peu, qu'il pouvait avoir confiance en elle aussi. Et de lui-même, il s'est livré, il a commencé à parler de la mort, bien évidemment, qui était imminente pour lui, malheureusement, qui l'attendait, mais il n'avait pas grand monde avec qui il pouvait en parler. Tout le monde essayait de lui dire « mais non, ça va aller ». Malheureusement, je pense qu'il ne faut pas nier dans ces moments-là, quoi. Donc il a eu besoin, il a réussi à se confier à elle, et Et j'adore cette anecdote pour justement l'évolution. On voit qu'au début, c'est pas toujours si facile dans toutes sortes de
métiers. C'est ça, les qualités d'une aide-soignante, c'est aussi de savoir prendre le temps, écouter, établir un lien avec le patient.
Ouais, c'est ça, voilà, il faut réussir à s'adapter. Chaque personne est différente. Hein. Il y a des personnes qui, face à la mort, vont être foudrages parce que c'est très dur à accepter. D'autres qui vont rien dire, d'autres qui vont faire comme si de rien n'était. Et à chaque personne qu'on rencontre, il faut s'adapter. Il faut comprendre comment elle fonctionne. Il faut comprendre pourquoi elle est violente si elle est violente, parce que ils ont un passé qui est peut-être dur. Ils sont comprendre pourquoi elle fait comme si de rien n'était, pourquoi elle prend un passé médicament, pourquoi. Et c'est ça le plus dur, quoi.
En tout cas, grâce à votre livre, on se rend compte que le quotidien d'une aide-soignante n'est pas de tout repos. Est-ce que ces 30 ans auprès justement des malades, des personnes âgées, a eu des répercussions sur la santé de votre maman, justement?
Alors, sur la santé, oui, physiquement, c'est vrai que je la vois maintenant. Physiquement, elle a beaucoup de douleurs aux articulations, principalement aux bras, parce que, comme je disais, elle était amenée à soulever beaucoup de patients au début, surtout quand c'était beaucoup moins médicalisé, les lits et les aides, on va dire. Donc, elle a beaucoup de problèmes aux mains, surtout. Elle a beaucoup moins de force aux mains, beaucoup assez de problèmes aux bras. Ça marque. Je pense que 30 ans à faire des métiers physiques, ça marque. Mentalement, je la trouve pas marquée, je sais pas comment elle fait, elle est forte, elle arrive à tout, enfin, encaisser beaucoup de choses, elle arrive à toujours garder ce côté positif et à aller de l'avant. Je sais pas comment elle fait, mais c'est surtout physiquement que je la vois marquée maintenant.
Est-ce qu'elle pense à l'après, à la retraite, justement? On dit souvent que les aides-soignantes qui ont consacré autant de temps justement aux autres et qui du jour au lendemain s'arrêtent de travailler, vivent cette étape assez difficilement. Je sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé, évoqué à un autre moment.
Peut-être, en tout cas, vous faites bien de me le dire. Il faudrait que j'y pense quand elle s'arrêtera. Il ne faudra pas que je la laisse toute seule, alors. Non, je ne sais pas comment. Enfin, petit à petit, c'est vrai qu'elle y pense. Elle essaie de réduire, déjà. Elle est passée plutôt à mi-temps ou à temps partiel, quoi, pour justement avoir la possibilité de travailler un petit peu moins et de se reposer plus physiquement, parce que maintenant, elle a 54 ans. Elle ne se récupère pas aussi facilement. Donc, comme je vous disais, elle a aussi des problèmes aux mains. Elle a assez mal aux bras. Donc elle y pense tout doucement. Heureusement, c'est quelqu'un donc plein de vie. Elle a beaucoup de passion. Elle fait assez régulièrement du sport. Donc elle pense à l'après comme ça. Elle a une famille aussi. Donc enfin, elle a un mari en tout cas qui l'entoure. Et donc ça aide aussi à l'après. Mais petit à petit, elle y pense. Elle essaie de réduire un peu le rythme. Bien qu'elle, pour elle, je sais que c'est hors de question d'arrêter tout de suite, hein, vu qu'elle est encore loin de la retraite. Mais elle réduit un petit peu pour ses petits pépins physiques, quoi.
Florent Catanzaro, merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Vivre FM nous présenter ce fabuleux ouvrage. Je rappelle, il s'intitule « Aventure et mes aventures d'une aide-soignante à domicile ». Il est publié aux éditions Jour dans Pixel. Je le conseille à tous nos auditeurs. À très bientôt, Florent,
sur Vivre FM. Merci beaucoup, à très bientôt, avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Vivre FM, podcast.